Diffusé tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Mydia Portis-Guérin, avec Virginie Cassagne aujourd'hui à la technique, et préparés comme tous les jours par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle, qui, tout à l'heure, à 10h50, recevra Michael Poplard pour vous parler de Shakespeare et Marlowe dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite et milieu pour nous ce mercredi d'une semaine sur Hannah Arendt dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, après Myriam Revaud-Dallon et Étienne Tassin, avant Michael Fossel demain et Pierre Bourette. C'est aujourd'hui Catherine Chalier qui est notre invitée, et Catherine Chalier, en compagnie de qui nous allons revenir sur le procès Eichmann, c'est-à-dire Eichmann à Jérusalem, un livre décisif que Hannah Arendt fit paraître après avoir assisté donc au procès d'Eichmann.
הוא נתן ידו למעשי אימים אשר כל המעולל אותם מוחק את צלם האדם מעל פניו. כי ישנם מעשים שהם מחוץ לתחום האנושי, שהם מעבר למחיצה המפרידה בין אדם לחיה. ואני מבקש ממצא מבית המשפט הזה. כי הוא עשה מתוך להיטות רצון ותאווה עד תום כלל לא הייתה שייכות למשרד ארבע עם אושוויץ כן, דברי גזי שאחרים יש לו להגין תפקיד גאי, אדול פרגמה פלא אותם במחנות וכיבות הרחובות צריכים היו בתי משפט שעניים
Mesdames et messieurs, l'homme qui se tient devant vous est le destructeur d'un peuple, l'ennemi du genre humain. Il est né homme, mais il a vécu comme un fauve dans la jungle. Il a commis des actes abominables, des actes tels que celui qui les commet ne mérite plus d'être appelé homme, car il est des actes qui sortent du champ de l'humain, qui sont au-delà de la frontière qui sépare l'homme de la bête. Je demande à la Cour de considérer qu'il a agi avec ardeur, de son plein gré et avec passion, jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous demande de condamner à mort cet homme. Bonjour Catherine Chalier.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est l'émission la plus difficile de cette semaine, sur Hannah Arendt évidemment. Eichmann à Jérusalem, c'est le texte dont nous allons parler. On vient d'entendre ici un extrait du procès d'Eichmann, un extrait monté par Ronny Broman et Yael Silvan dans leur film Un spécialiste, portrait d'un criminel moderne, film fait à partir des images enregistrées en 1961 par Léo Hurwitz. C'est le procureur ici qui présente l'accusé, qui le présente comme un fauve, comme l'ennemi du genre humain, comme quelqu'un qui ne mérite plus d'être appelé homme, disant qu'il est des actes qui sortent du champ de l'humain, qui sont au-delà de la frontière qui sépare l'homme de la bête, et donc qui donc à cet égard doit être condamné à mort. Ce qu'il est intéressant de noter tout de suite, d'emblée pour aller tout de suite dans le vif du sujet, Catherine Chalier avec vous, c'est que tout le propos, en tout cas une grande partie du propos, et ce qu'on en retient en général d'Anna Arendt dans Eichmann à Jérusalem, c'est de revenir non pas sur l'inhumanité d'Eichmann, mais bien de poser le problème de son humanité. C'est un humain qui a commis tout cela. S'il serait en un sens trop facile de considérer qu'il est juste monstrueux ou inhumain, on pourrait commodément le ranger dans la catégorie des monstres. Or, Eichmann n'était, dit-elle, ni Iago ni Macbeth.
Oui, et ça, c'est un point essentiel de sa thèse célèbre sur la banalité du mal, qu'il ne faut pas, bien sûr, mécomprendre. Il ne s'agit pas de dire que ce qu'Eichmann a fait est banal. Il s'agit de dire que cet homme a commis des actes épouvantables, bien entendu, mais malheureusement, sans perdre son caractère d'humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'inhumanité est une possibilité humaine, si je puis m'expliquer.
Vous dites malheureusement, c'est-à-dire que c'est malheureusement sans perdre son caractère. Il eût été, en un sens, souhaitable qu'il perdît son caractère d'humanité en faisant ce qu'il a fait.
Oui, parce que, d'une certaine façon, ça nous mettrait à l'abri de la pensée que l'humain, en général, est capable d'actes aussi effroyables. Et donc, ça serait une exception au genre humain. Alors, aussi effroyables soient ces actes, et on est tous d'accord pour le penser, et Hannah Arendt, la première, elle ne dit pas du tout que ce qu'il a fait est banal.
Il faut bien comprendre ici que la banalité du mal, c'est la banalité de celui qui commet le mal, et non pas du geste du mal en tant que tel.
Voilà, c'est le nazi banal, si je puis dire, mais le nazi banal est capable d'actes tout à fait effrayants. Alors, ce qui intéresse Hannah Arendt dans cette thèse sur la banalité du mal, que l'on peut discuter enfin, sur d'autres points de vue, mais c'est l'idée que cet homme, progressivement, a fait carrière dans l'ASS et a ensuite est arrivé au sommet de l'échelle et a pris les décisions terrifiantes qui ont été les siennes et qui ont conduit à la déportation de centaines de milliers de juifs dans les camps. Mais sa thèse, c'est que cet homme ne se caractérisait pas par une monstruosité particulière, par une perversité particulière, par une emprise de forces ténébreuses en lui qui en aurait fait un personnage tout à fait hors du commun. Et donc, elle soutient que cet homme était en fait un être extrêmement médiocre et que, et alors c'est là peut-être où je me permettrais de prendre une distance par rapport à sa thèse, qui le caractérisait par excellence, c'était qu'il ne pensait pas. Il ne pensait pas aux conséquences de ses actes, il ne s'imaginait pas dans la position d'autrui, il n'était pas capable de prendre la position d'autrui, et donc que cette absence de pensée, cette absence d'imagination était véritablement pour elle le nœud de son attitude.
Catherine Chalier, je ne veux pas vous interrompre, mais je le fais quand même pour les besoins de la cause. Nous allons entendre le texte. C'est Anne Brissier, dont la voix nous accompagne toute la semaine, qui le lit. Nous allons entendre le texte de Hannah Arendt, dans lequel elle fait le lien entre l'absence de pensée et le mal que l'on peut commettre, et dans lequel elle distingue Eichmann de la monstruosité absolue caractérisée par Iago ou Macbeth à ses yeux, ou Richard III d'ailleurs. Et on va entendre avant cela Eichmann lui-même revenir sur ses fonctions. Ses fonctions dans le cadre des consignes du commissaire du Reich pour le renforcement du peuple allemand, ses fonctions de planification des transports à Berlin. Et avant cela, juste quelques rappels historiques pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas toutes ces dates en tête. Le 11 mai 60, Adolf Eichmann, ancien représentant de commerce, entré dans la SS autrichienne en 32, est responsable à partir de 41 de la section de l'Office central de sécurité du Reich, chargé de l'extermination des Juifs d'Europe, réfugié en Argentine depuis 45. Donc, le 11 mai 1960, il est arrêté par les services secrets israéliens dans la banlieue de Buenos Aires. Il comparaît devant le tribunal de Jérusalem un an plus tard pour répondre de 15 chefs d'accusation, dont ceux d'avoir commis des crimes contre le peuple juif, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre pendant toute la durée du régime nazi, et spécialement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est à noter également, pour avoir tous les éléments du dossier, que Eichmann fut le prisonnier et l'accusé, le plus coopératif qui soit avec ceux qui lui ont posé des questions. On va revenir là-dessus. D'abord, donc, on entend la voix d'Eichmann expliquant qu'il devait planifier les transports à Berlin en accord avec le ministère des Transports, que c'était sa mission, que la politique, dit-il, la politique de l'époque était très différente de celle du début de la guerre, ce qu'il n'a constaté que plus tard, qu'il avait des ordres, que les gens soient exécutés ou non, dit-il, il fallait obéir aux ordres selon la procédure administrative. Et enfin, Eichmann fait valoir le fait qu'il n'était responsable que d'une partie infime des opérations. Les autres tâches nécessaires au départ d'un transport, dit-il, étaient prises en charge par d'autres secteurs. Écoutez.
Sondern ich hatte diese im Zuge der neuen Befehlsgebung des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums befohlenen Transportpläne in Berlin im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsministerium zu erstellen. Das war meine Aufgabe gewesen. Die Politik war um jene Zeit eine ganz andere gewesen als wie zu Beginn des Krieges, aber dies stellte ich um jene Zeit auch nicht fest, sondern erst nachher. Ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet wurden oder nicht, er musste durchgeführt werden. Er ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür zu erledigen gehabt. Die anderen Teilchen, die notwendig waren, bis so ein Transport rollte, haben die verschiedenen anderen Stellen gehabt.
Je peux très bien imaginer aussi qu'une controverse authentique aurait pu surgir à propos du sous-titre du livre. Car je n'ai parlé de la banalité du mal qu'au seul niveau des faits, en mettant en évidence un phénomène qui sautait aux yeux lors du procès. Eichmann n'était ni un Iago, ni un Macbeth, et rien n'était plus éloigné de son esprit qu'une décision, comme chez Richard III, de faire le mal par principe. Mis à part un zèle extraordinaire à s'occuper de son avancement personnel, il n'avait aucun mobile. Et un tel zèle en soi n'était nullement criminel. Il n'aurait certainement jamais assassiné son supérieur pour prendre son poste. Simplement, il ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait, pour le dire de manière familière. C'est précisément ce manque d'imagination qui lui a permis de rester assis pendant des mois en face d'un juif allemand qui menait l'interrogatoire de police, de s'épancher devant cet homme et de lui expliquer mille et une fois pourquoi il n'avait jamais dépassé le rang de lieutenant-colonel des SS et que ce n'était pas de sa faute s'il n'avait bénéficié d'aucune promotion. Il savait très bien au départ de quoi il s'agissait dans tout cela. Et dans sa dernière déclaration au tribunal, il parla de la réévaluation des valeurs préconisées par le gouvernement nazi. Il n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal et même comique, si avec la meilleure volonté du monde on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, on ne dit pas pour autant, loin de là, que cela est ordinaire. Il n'est certainement pas si courant que, devant la mort et surtout au pied de l'échafaud, un homme soit capable de ne penser qu'à des phrases entendues toute sa vie aux enterrements et que ces paroles élevées lui voilent complètement la réalité de sa propre mort. Qu'on puisse être à ce point éloigné de la réalité, à ce point dénué de pensée, que cela puisse faire plus de mal que tous les mauvais instincts réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme, telle était effectivement la leçon qu'on pouvait apprendre à Jérusalem. Mais ce n'était qu'une leçon, ce n'était pas une explication du phénomène ni une théorie à ce sujet. La question du genre de crime dont il s'agit vraiment ici, un crime dont de plus tout le monde s'accordait à dire qu'il était sans précédent, est une question apparemment plus complexe. Mais elle est en fait bien plus simple que celle de l'étrange lien entre l'absence de pensée et le mal.
שלא הפריע לך להיות הספדיטר הגדול של המת.
Das störte mich wohl sehr und das störte mich mehr als überhaupt irgendein Mensch ahnen kann. Umsonst habe ich nicht viel Male meinen Vorgesetzten vorgetragen und ihn gebeten, er möge mir eine andere Dienstverwendung überantworten. Ich habe
aber nie schriftlich.
Schriftlich war so etwas nicht üblich. Man hat sich militärisch. Jawohl.
Ça ne vous dérangeait pas d'être le grand convoyeur de la mort, lui demande le procureur. Eichmann, ça m'ennuyait énormément, bien plus qu'on aurait pu l'imaginer. Je suis très souvent allé voir mon supérieur pour le prier de me confier une autre tâche. Mais pas par écrit, interrompt le procureur. Par écrit, dit Eichmann, ce n'était pas l'usage. Ah, dit le procureur, jamais par écrit. Eichmann, oui. Catherine Chalier, dans le texte de d'Anna Arendt, donc, on comprend que par banalité du mal, il ne faut pas comprendre le fait que chaque individu puisse abriter en lui un bourreau sanguinaire, mais que la banalité du mal, très précisément, c'est une absence de pensée, c'est une absence de jugement qui nous voile la réalité, qui nous en éloigne. Et l'absence de pensée, de jugement peut, à cet égard, faire plus de mal que tous les mauvais instincts réunis.
Oui, ça c'est la thèse d'Anna Arendt. Donc Eichmann, comme on vient de l'entendre, c'était un fonctionnaire zélé, comme on dirait maintenant, il gérait la situation sans penser véritablement en conséquence de ses actes. Mais par rapport à cette thèse de Arendt, en essayant de l'avoir établie correctement au départ, il me semble malgré tout qu'on peut émettre deux types d'objections. La première consisterait à dire que malgré tout, il y a un premier oui d'Eichmann. Et ce premier oui d'Eichmann, c'est un acte de liberté. Je m'étonne que cela ne soit pas suffisamment souligné par Arendt, qui est par ailleurs une penseuse...
De la natalité, c'est-à-dire du caractère inaugural des individus, oui, donc de la responsabilité de leurs actes.
Et de la liberté. Donc ce point me semble extrêmement important. Or, cette liberté peut être prise de vertige choisir quelque chose, un rôle en l'occurrence, qui va ensuite conduire, s'inscrire dans un processus qui va conduire à des actes qui sont des actes qui commandent la mort de milliers et de milliers de personnes.
Arendt ne dit jamais qu'Eichmann n'est pas responsable de ces actes.
Non, je ne dis pas du tout ça. Elle dit bien qu'il est responsable. J'insiste sur ce point du premier oui qui est un acte de liberté et qu'à ma connaissance, en tout cas, elle ne prend pas suffisamment en question. Ça, c'est le premier point. Il ne me semble pas qu'on peut expliquer le mal profond qu'un être humain fait simplement parce qu'il ne pense pas. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est celui-ci, c'est que bien sûr, il y a une absence de pensée, une absence d'imagination de la souffrance qu'il est en train de causer. Mais je crois aussi que c'est avoir un rapport qui n'est pas du tout émotionnel aux autres êtres humains. Il ne s'agit pas simplement de penser à la souffrance qu'on est en train de causer, mais il s'agit aussi d'être capable d'une certaine empathie avec les êtres humains pour pouvoir réaliser ce que l'on est en train de faire. Alors je crois qu'Arendt, si je comprends bien, est assez grec dans cette analyse sur le mal comme absence de pensée. C'est-à-dire, il y a chez les Grecs cette idée que le mal peut être en effet extrêmement redoutable.
Vous voulez dire que nul n'est méchant volontairement.
Mais que c'est la pensée qui seule nous met nous oriente vers le bien, et que donc lorsque nous faisons des actes qui sont éminemment répréhensibles, ce n'est pas dû à quelque vice intérieur de nous-mêmes, mais à cette absence de pensée. Et je crois que je serais plutôt en accord avec ce que nous enseigne l'autre source de notre culture, à savoir la source biblique, qui consiste à dire que nous pouvons aussi avoir un vertige de notre liberté et choisir le mal.
Alors c'est d'ailleurs tout le propos de saint Augustin, dont la découverte de sa liberté va de pair avec la découverte de la possibilité du mal en lui. Anna Arendt, rappelons-le, on l'a déjà dit cette semaine, avait fait sa thèse sur la question de l'amour chez saint Augustin. Or, dans les Confessions, dans le livre 2, si j'ai bonne mémoire des Confessions, saint Augustin revient sur un vol de poire, dont on pourrait se dire en lui-même qu'il est anodin, qu'il n'a pas grand intérêt, si ce n'est qu'évidemment c'est une parabole qui lui permet de revenir sur le péché originel et de s'en faire lui-même le nouvel interprète. Augustin, revenant sur le vol de poire, dit « Qu'ai-je aimé en toi, misérable larcin ? Je n'avais pas faim, j'en avais pas besoin, j'ai pas revendu la poire que j'avais volée. Non, j'ai fait le mal pour le mal. » Augustin destin et le penseur qui permet de penser à la fois l'émergence de la liberté et le choix du mal pour lui-même, c'est-à-dire la possibilité d'une liberté véritablement négative, de cette grandeur négative de la liberté. Et il est étonnant qu'Anna Arendt, qui ait tant travaillé sur Augustin, prenne ici en un sens le contre-pied de sa thèse, Catherine Chalier.
Il me semble que cette dimension du choix du mal, qui est déjà biblique, c'est dans le Deutéronome, cette idée-là, est une possibilité humaine. Alors ça ne fait pas du tout sortir Eichmann de l'humanité pour autant, ce que je dis. Ça n'en fait pas un inhumain. C'est précisément ce qui est redoutable, c'est de penser que l'humain a cette capacité de choisir le mal. Et donc, il choisit une première fois, un premier oui, donc de faire carrière dans la SS, de donner priorité à sa carrière sur toute autre considération, sur tout autre souci. C'est bien une intention, c'est bien un choix. Et ensuite, ce choix l'entraîne dans un engrenage qui, pour Arendt, cet engrenage, cette nécessité est toujours une figure du mal et ainsi arrive à ses conséquences absolument terrifiantes. Dans sa correspondance célèbre...
Avec Mary McCarthy,
je pensais à la correspondance qu'elle a eue après la publication de ce livre avec Gershom Scholem. Elle lui dit... le mal n'est jamais profond. Le mal n'a pas de racines profondes. Le mal est superficiel et c'est pour ça qu'il peut se répandre partout et seul le bien a une véritable profondeur. Je pense que ici, c'est un propos qui me semble méconnaître les méandres très profond de l'âme humaine qui peut être fascinée par le mal et le choisir. Alors peut-être que le bien a des racines encore plus profondes et j'aurais tendance à l'espérer parce que c'est précisément ce qui permet de penser la repentance. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas avec tous les criminels nazis à ma connaissance.
Alors est-ce que vous seriez davantage, on va rester sur cette question et nous n'en sortons pas ici malgré les apparences, enfin, est-ce que vous seriez davantage, Catherine Chalier, du côté par exemple de Vladimir Jankélévitch, qui dans un texte resté justement célèbre, L'Imprescriptible, parle des Allemands. C'est un texte auquel on a pu reprocher parfois, et l'expression n'est pas de moi, hein, son racisme anti-allemand, et qui effectivement s'applique en un sens à ce texte. C'est un texte dans lequel Jankélévitch, par exemple, dit « On a comparé les bourreaux des camps à des chiens ». Et il dit, je récuse cette comparaison car elle est flatteuse pour les chiens. Les bergers allemands, dit Jankélévitch, ne faisaient pas de piqûres de phénol dans le cœur des petits-enfants. Et il continue, il dit, pour moi qui ai eu la chance inouïe, inestimable, n'avoir pas été à Auschwitz, dont les parents n'ont pas été déportés, c'est un devoir sacré de témoigner inlassablement. Il n'y a pas de limite dans le temps à la mémoire de celui qui n'a pas vécu lui-même l'enfer dont il témoigne. « Jamais, continue-t-il, je ne mettrai ma main dans la main des bourreaux, je n'irai pas dans leur pays, j'ai refusé leur argent, je leur dis gardez vos marques, vos marques, M-A-R-K-S, me font horreur, je ne vous ferai pas le plaisir d'accepter une réparation pour l'irréparable, je suis personnellement offensé par l'horrible extermination, je ne cesse d'y penser, je maudis ceux qui l'ont organisé, ceux qui l'ont exécuté, ceux qui prétendent ne pas y croire, ceux qui ont fait semblant de ne pas s'en apercevoir, ceux qui n'ont pas eu un mot sur ces crimes effroyables, car j'ai beau tendre l'oreille, je n'ai jamais entendu ce seul mot, pardon. Catherine Chalier, quel est, selon vous, le discours à tenir quand Jankélévitch tient ce discours, il oppose à un crime métaphysique une accusation métaphysique. Quand Anna Arendt parle de banalité du mal, elle se donne les moyens de penser l'humanité du criminel, l'humanité du monstre, sans pour autant dissoudre sa responsabilité. Est-ce qu'au fond, on n'est pas tenté d'écouter Jankélévitch, mais également de réfléchir avec Arendt?
Bien sûr qu'on peut réfléchir avec Arendt et également avec Jankélévitch. personnellement, dans ce que j'ai dit, j'ai pas pensé que celui qui, par un premier oui, choisit le mal et s'enferme dans un engrenage terrifiant est un animal. C'est un être humain. Et c'est ça, encore une fois, qui est le plus horrifiant. Parce que rejeter celui qui a commis ces actes effroyables dans l'inhumanité, d'une certaine façon, ça nous rassure. Parce que l'on se dit que nous sommes à l'abri d'un tel vertige, d'un tel abîme. Par rapport à ce que dit Yankelevitch, je crois ici que Yankelevitch parle aussi de tout ce qui s'est passé dans les ghettos, dans les camps. Et là, ce n'était pas la froideur d'Eichmann. Il suffit de lire et de s'informer. Et on voit bien qu'il y avait des actes de sadisme, qu'il y avait des actes de cruauté effroyable et que, pour le coup, ce n'était pas une absence de pensée, mais c'était un déchaînement des instincts les plus terrifiants qui peuvent habiter un être humain, justement.
On va entendre un extrait, non pas de Hannah Arendt, mais des Bienveillantes, de Jonathan Little. Un livre qui a eu un succès phénoménal lors de sa parution en 2006. Un succès phénoménal et qui pourtant a laissé mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, la plupart de ses lecteurs. Je fais partie d'ailleurs de ces lecteurs mal à l'aise et qui pourtant reconnaissent à ce livre de grande, d'énorme parfois qualité littéraire. C'est un livre qui, pour mémoire, consiste dans le monologue de Maximilien Ao, qui est un ex-officier des Einsatzgruppen et qui, en tant que tel, est responsable de crimes contre l'humanité et qui raconte son histoire. Et qui, quand il raconte son histoire, le fait en des termes qui laissent le lecteur véritablement à la fois perplexe et mal à l'aise et qui ne sont pas sans rappeler justement le propos de Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem. Écoutez ce texte.
Soyons clairs. Je ne cherche pas à dire que je ne suis pas coupable de tel ou tel fait. Je suis coupable. Vous ne l'êtes pas. C'est bien. Mais vous devriez quand même pouvoir vous dire que ce que j'ai fait, vous l'auriez fait aussi. Avec peut-être moins de zèle, mais peut-être aussi moins de désespoir. En tout cas, d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il m'est permis de conclure, comme un fait établi par l'histoire moderne, que tout le monde, ou presque, dans un ensemble de circonstances données, fait ce qu'on lui dit. Et, excusez-moi, il y a peu de chances pour que vous soyez l'exception, pas plus que moi. Si vous êtes né dans un pays ou à une époque où non seulement personne ne vient tuer votre femme, vos enfants, mais où personne ne vient vous demander de tuer les femmes et les enfants des autres, bénissez Dieu et allez en paix. Mais gardez toujours cette pensée à l'esprit. Vous avez peut-être eu plus de chance que moi, mais vous n'êtes pas meilleur. Car si vous avez l'arrogance de penser l'être, là commence le danger. On se plaît à opposer l'État totalitaire ou non à l'homme ordinaire, punaise ou roseau. Mais on oublie alors que l'État est composé d'hommes, tous plus ou moins ordinaires, chacun avec sa vie, son histoire, la série de « hasards » qui ont fait qu'un jour, il s'est retrouvé du bon côté du fusil ou de la feuille de papier, alors que d'autres se retrouvaient du mauvais. Ce parcours fait très rarement l'objet d'un choix, voire d'une prédisposition. Les victimes, dans la vaste majorité des cas, n'ont pas plus été torturées ou tuées parce qu'elles étaient bonnes que leurs bourreaux ne les ont tourmentées parce qu'ils étaient méchants.
Catherine Chalier est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi dans une émission sur Eichmann à Jérusalem, sur le procès Eichmann, le récit du procès Eichmann que propose Hannah Arendt au début des années 60. Catherine Chalier, qui est notamment l'auteur de « Banalité et radicalité du mal », un article paru et recueilli aujourd'hui dans le volume collectif intitulé « Ontologie et politique sur Hannah Arendt » paru en 89 aux éditions Payot. Que vous inspire, Catherine Chalier, ce texte de Jonathan Little?
Ce qui m'inspire, c'est que j'ai relevé, enfin, si je me souviens bien de ce que je viens d'entendre, les mots « hasard »,« chance », ce n'était pas un choix. Et alors là, je m'insurge très profondément contre cela.
On en revient à ce que vous disiez au début.
Parce que, précisément, ça laisse entendre que la banalité du mal selon cette interprétation, hein, ça serait, au fond, voilà, ça peut arriver à tout le monde, tout à fait par hasard, par chance, parce que vous êtes né ici ou là, etc. Et là, je m'insurge contre ça, parce que, je répète ce que j'ai dit, je pense qu'il y a un premier oui, qui est un oui peut-être à une petite chose, mais ce oui-là, c'est un oui de la liberté. Et donc, je pense que c'est très important de le dire. Et il y a eu des personnes, sans doute pas nombreuses, qui ont choisi autre chose, qui ont choisi précisément de résister, de protéger les Juifs. Et ce n'est pas... Alors, ce n'est pas du tout par hasard qu'elles l'ont fait. Ce n'est pas par chance, tiens, simplement, comme... Non, je crois que cette façon de diluer absolument la liberté dans la chance ou le hasard est quelque chose qui ne permet pas à l'homme de penser profondément la responsabilité qu'il a dans la vie qu'il mène. Et donc, ce texte-là, je le récuse tout à fait.
Et est-ce que ça ne permet pas également, enfin, est-ce que ça ne pose pas également un autre problème qui est finalement de ne plus... faire valoir le caractère, j'en parlais tout à l'heure à propos de Jankélévitch, le caractère métaphysique d'un tel crime, le caractère absolu d'un tel crime. Est-ce qu'au fond, même si le filtre de l'explication, c'est d'ailleurs la grandeur de l'humain précisément, de pouvoir ou d'entreprendre, de comprendre ou d'expliquer, faute de comprendre peut-être parfois, ce qu'il a sous les yeux, donc c'est toute sa grandeur d'en être capable et d'en avoir l'intention, mais est-ce que l'entreprise explicative, est-ce que le fait, l'entreprise presque romanesque, j'ai envie de dire, de plonger dans les raisons du malin, au point justement de dire que le malin, et je mets avec un M majuscule, n'est qu'un pauvre type, n'est qu'un petit ambitieux, une petite frappe de l'appareil d'État nazi, et un pauvre type qui est juste bon à nettoyer obsessionnellement ses lunettes devant ses juges et ses victimes. Est-ce que cela n'interdit pas ou ne contribue pas à diluer la valeur absolue, inentamable, définitive, absolue et première, au fond, d'un tel crime.
Bien évidemment. Et puis, il faudrait malgré tout pas oublier que ce crime visait à l'extermination du peuple juif. Il y avait un objet quand même très précis de ce crime. C'était pas n'importe quoi. C'était pas soudainement décidé de faire ceci ou de faire cela. Donc même ces pulsions de haine affreuse, de meurtre qui ont été éveillées dans les personnes qui ont mis en œuvre tout ce qui s'est passé, ces pulsions-là étaient aussi dirigées contre un peuple. Et je voudrais préciser aussi quelque chose. Un peuple qui avait été avili, humilié. Par exemple, dans le début du nazisme, on pouvait obliger un juif pieux à laver des latrines avec ses téphilines. Donc essayer, au contraire, de faire de ce peuple un peuple qui ne mérite pas, lui, le titre d'humain. Et on peut se rappeler...
C'est la phrase d'Hitler. Les juifs sont une race, mais ils ne sont pas humains.
Et donc, on peut se rappeler, lorsque Jan Karski visite le ghetto de Varsovie, il est effroyable, il est effrayé, il a le sentiment de percevoir quelque chose d'inhumain. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur ce projet. Ce projet est d'abord doter l'humanité à un peuple, en l'occurrence les Juifs, les tziganes également, et par extension...
Les homosexuels aussi.
Les homosexuels, d'autres personnes qui se sont trouvées. Donc c'est arracher une catégorie d'hommes à l'humanité.
Mais Catherine Chaly, est-ce que la meilleure réponse, pour le coup, à celui qui entend ôter l'humanité, c'est-à-dire avant de le détruire comme tel, parce qu'il est juif, de lui ôter son humanité, de le priver de son humanité, est-ce que la meilleure réponse à celui qui commet un tel geste, ça n'est pas en retour de garantir l'humanité de celui qui commet ce geste, justement?
Ah oui, non, ça, je crois que je suis d'accord avec vous. Je l'ai tout à fait dit à plusieurs reprises.
C'était pas une objection, hein, c'était juste un élément du débat que soulève Arendt.
C'est bien que c'est un être humain qui fait ça. Un être humain qui est capable de vouloir ôter l'humanité à son prochain. Alors, ça peut commencer par de petites choses, bien entendu. Et c'est, ça veut dire aussi que ce mot humain que nous employons depuis le début de l'émission, ce mot humain, ce n'est pas une donnée factuelle, ce n'est pas une donnée biologique. J'aurais envie de dire que c'est une promesse, que ce n'est pas du tout une garantie. Simplement parce que nous existons, alors nous sommes humains. Donc l'humain s'arrache sans doute à un certain abîme. Et il s'arrache à cet abîme par des choix, par des actes, par des engagements. Et ça me semble une position plus importante à tenir que d'écarter d'emblée une catégorie de gens de notre commune humanité en disant soit que ce sont des infra-humains, soit que ce sont des monstres.
Alors, quand on demande à Eichmann s'il avait pu avoir plus de courage, par exemple, et quand on lui soumet l'hypothèse selon laquelle s'il avait eu plus de courage, les choses se seraient passées autrement, il fait une réponse extraordinaire, si j'ose dire. Il dit « Oui, j'aurais eu plus de courage si le courage avait été structuré hiérarchiquement. » La thèse d'Eichmann, qui est de dire « Je ne suis pas responsable puisque j'ai obéi », s'applique même à la vertu de courage. Au fond, si on lui avait donné l'ordre d'être courageux, il se serait conduit de manière courageuse, ce qui est en soi un sophisme, et qui pour le coup d'ailleurs peut être pensé alors de façon extrêmement critique par Hannah Arendt elle-même, qui insiste bien, et cette fois-ci d'ailleurs avec Jean Kelevitch, sur le caractère justement donc inaugural du courage, et sur le fait que être courageux ne peut jamais n'être, le fait d'être courageux ne peut jamais être l'effet d'une obéissance à l'injonction qui vous est faite d'être courageux. Catherine Chalier.
Oui, bon, bah, ça c'est un argument d'ailleurs qui a été employé par beaucoup de dignitaires nazis lors de leur procès, c'est-à-dire qu'ils avaient obéi aux ordres et que ils n'avaient pas à se montrer justement courageux en désobéissant, sauf, c'est assez extraordinaire, si on leur en donnait l'ordre, comme il est dit ici. Mais ceci dit, cette obéissance n'ôte en rien la responsabilité des actes commis et surtout des conséquences des actes commis dans un bureau ou dans un endroit où on ne les voyait pas de façon immédiate.
Et l'abstraction du crime en tant que tel, ce qui est pour le coup inhumain, on a parlé tout à l'heure avec vous, Catherine Chalier, de de l'humanité d'Eichmann. Ce qu'il y a d'inhumain ici, et paradoxalement, c'est Hannah Arendt elle-même qui le montre, ce qu'il y a d'inhumain ici, c'est son inaptitude à souffrir des douleurs qui lui sont épargnées. C'est-à-dire, là où il peut être taxé d'inhumanité, c'est tout simplement qu'il est insensible, ce qu'il ne nie pas lui-même d'ailleurs, quand il fait valoir sa mission, quand il répond. Arendt insiste sur le fait que Eichmann transforme ses phrases en clichés et qu'il redit constamment les mêmes phrases, avec une espèce de précision administrative précisément inhumaine. Et l'inhumanité d'Eichmann, ça n'est pas seulement son inaptitude à penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre, comme elle dit, mais c'est également à ne pas souffrir tout simplement des douleurs d'autrui. C'est le fait qu'il ne sorte jamais de lui-même.
Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et ça, c'est Arendt qui le dit.
Elle n'insiste pas elle insiste sur ce point, oui, mais elle n'insiste pas sur le fait que cette insensibilité est elle-même une raison profonde du mal qu'il commet. Par exemple, lorsque, au cours du procès, il y a eu 100, je crois, témoignages de gens qui sont venus, qui étaient des rescapés de la Shoah, Hannah Arendt, à un moment donné, est agacée par ces témoignages. Et elle dit ceci qui me semble invraisemblable. Elle dit « Beaucoup de ces témoignages n'avaient pas de rapport direct avec la personne d'Eichmann. » Mais ça me semble un propos vraiment très étrange parce que les décisions que prenait Eichmann avaient des conséquences sur ces millions de gens qui ont souffert. Et donc, les témoignages qui sont donnés, bien sûr, c'est pas des témoignages de gens qui avaient directement souffert d'Eichmann, mais c'était bien les conséquences de ces actes. Et je trouve que la sévérité d'Arendt vis-à-vis des témoins pendant ce procès, d'ailleurs elle accorde peu de place aux témoignages dans le livre, c'est un chapitre assez bref, alors qu'il y a eu beaucoup de témoins. Et là, c'est un témoin juif qui parle de la souffrance juive, et ça agace Arendt.
Arendt revient dans l'épilogue d'Eichmann à Jérusalem sur la question de la justification juridique de ce procès. Elle dit, même si Israël avait kidnappé Eichmann en tant qu'ennemi du genre humain seulement et non seulement en tant qu'ennemi des juifs, il eût été difficile de justifier juridiquement son arrestation. Si l'on pousse le raisonnement qu'elle tient à ce moment-là, on peut dire également qu'il est difficile de justifier sa condamnation à mort. Catherine Chalier, écoutez.
Dans la nuit de l'Ascension, en Israël, un homme est mort pendu. Adolf Eichmann, l'ancien colonel de la Gestapo, le bourreau de 6 millions de juifs pendant la guerre. À l'heure des préparatifs de son exécution, Eichmann a dit « Jawohl ». Il était prêt à obéir à son bourreau, comme il avait toujours, selon son système de défense, obéi à ses chefs nazis. Depuis la fin de la guerre, il savait qu'il vivait en sursis. Depuis le 15 décembre 1961, jour de la sentence de la cour de Jérusalem, il était fixé sur son sort.
Une chape de plomb s'abat sur la salle lorsque l'interminable exposé du supplice du peuple juif étire ses horreurs. Je regarde Eichmann. Calme et froid, il classe ses dossiers. Quelque temps après, s'abattront comme une litanie incroyable en réponse aux 15 chefs d'accusation ses dénégations. Ni schuldig, non coupable.
Bekennen Sie sich zum siebten Anklagepunkt. Schuldig oder nicht schuldig?
Im Sinn der Anklage nicht schuldig.
Bekennen Sie sich zum achten Anklagepunkt, schuldig oder nicht schuldig?
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Eichmann s'est araigné dans un bocal, comme l'appelle Betty Knut, héroïne de la résistance française et israélienne. Eichmann a été jugé, bien jugé.
Eichmann a-t-il été jugé et bien jugé, selon vous, Catherine Chalier? Et est-ce qu'en le condamnant à mort, et je reprends ici les arguments d'Albert Camus, par exemple, contre la peine de mort, qu'il faut appliquer même au cas où ça semble évident, où la tendance naturelle serait de dire, évidemment, il fallait condamner cet homme à mort, est-ce qu'en le condamnant à mort, on ne fait pas de ce procès une affaire non plus de droit, mais de vengeance?
Bien sûr que non, c'est une affaire de droit. D'ailleurs, même Anna Arendt reconnaît qu'elle est contente qu'il ait été mis à mort. Donc, ce n'est pas du tout une vengeance. Je suis pas du tout...
C'est l'argument de Camus, hein, de dire que toute condamnation à mort fait du droit, confond le droit et la vengeance.
Je ne pense pas. Ensuite, c'est un procès qui a été conduit en bonne et due forme. Alors, qu'il y ait dans ce procès un élargissement à l'histoire, c'est certain. Et donc là, il y a peut-être pour ceux qui sont très précis sur les définitions, une certaine confusion entre le
bourreau de 6 millions de juifs,
entre le juridique et l'historique. Donc ça, sur ce point, on peut le penser, mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. D'ailleurs, si ce procès a eu lieu à Jérusalem, pourquoi il a eu lieu à Jérusalem? Et Anna Arendt...
C'est la question que j'allais vous poser.
Anna Arendt justifie ceci de façon très précise. Sur ce point, elle n'a pas de reproche à faire. C'est-à-dire que les criminels de guerre étaient jugés dans les pays où ils avaient commis leurs crimes. Et lorsque ces crimes avaient été commis dans différents pays, eh bien, ils ont été en particulier jugés à Nuremberg. Bon, en l'occurrence, les crimes d'Eichmann visaient le peuple juif. Ce peuple juif avait maintenant un pays, selon ce que pensaient les sionistes de l'époque. Et donc, et Anna Arendt ne trouve rien à redire sur ce point, en l'occurrence. Et donc, ce procès pouvait se tenir en toute légalité à Jérusalem.
Le procès Eichmann, écrit-elle, n'était donc en réalité ni plus ni moins que le dernier d'une longue série de procès qui suivirent les procès de Nuremberg, et la condamnation portait dûment en appendice l'interprétation officielle de la loi de 1950 donnée par Pinhas Rosen, ministre de la Justice. Ce texte ne pouvait être plus clair ni moins ambigu. Voici le texte. « D'autres peuples ont promulgué des lois appropriées au châtiment des nazis et de leurs collaborateurs peu après la fin de la guerre, et certains même avant la fin, alors que le peuple juif n'avait pas d'autorité politique pour faire comparaître les criminels nazis et leurs collaborateurs devant la justice avant la fondation de l'État. » Arendt poursuit. « Le procès Eichmann ne différait donc des procès successeurs au procès de Nuremberg que sur un seul plan. L'accusé n'avait pas été dûment arrêté et extradé en Israël. Au contraire, on avait enfreint la loi internationale afin de le faire comparaître devant la justice. »
Oui, mais elle précise aussi que si on avait enfreint la loi internationale, c'est parce que l'Argentine n'aurait jamais extradé Eichmann. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle émet un grand regret sur ce sujet précis.
Et dernier point, on arrive malheureusement au terme de cette émission avec vous, Catherine Chalier. Un point, il n'y a jamais d'étape obligée dans une émission, mais enfin en l'occurrence c'est quand même très important parce que le Eichmann à Jérusalem a posé problème pour deux points. Cette question largement rebattue, discutée, passionnante et difficile, douloureuse de la banalité du mal, mais également la thèse arendtienne d'une participation des conseils juifs à l'extermination de leur propre peuple. Il nous reste malheureusement, et c'est presque honteux de vous poser cette question maintenant alors qu'il reste si peu de temps, mais quand même, je m'en voudrais trop de ne pas l'évoquer ici. Que vous inspire cette thèse, la thèse d'Arendt selon laquelle effectivement les conseils juifs ont d'une certaine manière contribué à l'extermination de leur propre peuple en fournissant informations aux nazis?
Alors, très brièvement, d'abord, dans ses réflexions sur le totalitarisme, elle explique que tous les systèmes totalitaires font contribuer leurs victimes à leur propre sort. Alors ceci, par contre, elle ne le mentionne pas lorsqu'elle parle des conseils juifs dans son livre. Par ailleurs, elle leur donne des conseils, si je puis dire, en disant qu'il aurait mieux fallu ne rien faire. Ne rien faire, ça aurait sans doute été plus favorable à la sauvegarde, du moins, de certains juifs. Ce dont on peut douter très sérieusement, si on regarde par exemple ce qui s'est passé dans les pays à domination soviétique, où ces conseils juifs n'existaient pas et où le peuple a été assassiné profondément. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les conditions dans lesquelles les Juifs se trouvaient étaient des conditions effroyables, étaient des conditions de solitude absolue, des conditions d'abandon. Ce n'est pas des conditions dans lesquelles on est particulièrement moral. Ce n'est pas dans ces conditions-là que l'on se conduit d'une façon qui soit nécessairement morale. Malgré tout, il y a eu aussi des gens qui se sont bien conduits. Si on lit par exemple les journaux de gens qui étaient dans le ghetto de Varsovie, par exemple Mordechai Kaplan, il est très sévère contre les conseils juifs. Mais il admire, si je puis dire, Tchernovitz lorsqu'il se suicide pour ne pas envoyer 70 000 juifs à la mort. J'avais aussi lu dans ce ghetto de Varsovie, à propos de ce ghetto de Varsovie, le journal de Hillel Zeidman, qui parle aussi de ses conseils. Il dit, au début, c'était pour maintenir un semblant d'ordre dans la panique extrême, dans la détresse extrême. Après, sans doute, certains affairistes se sont mêlés de ça et ont essayé de sauver leur vie. Donc, c'est certain que ça existait. Je ne vais pas dire le contraire. Mais c'était dans des conditions extrêmes et dans des conditions aussi où les Juifs espéraient, attendaient un secours qui n'est jamais venu. Et donc, peut-être espérait-il aussi gagner du temps, mais ce fut tout à fait en vain. Et Hannah Arendt a une phrase étonnante dans sa correspondance avec Scholem à ce propos, où elle dit en effet que les fautes de son propre peuple lui importent plus que les fautes des autres peuples. Alors, en l'occurrence, on peut quand même s'interroger sur ce deux poids, deux mesures dans de telles circonstances. Et par ailleurs, elle dit aussi, ces décisions dans les conseils juifs, elles étaient prises dans une atmosphère de terreur, mais pas sous la pression de la terreur. Vous me permettrez d'en douter.
Ce sera le mot de la fin, le doute de la fin. Catherine Chalier, merci infiniment d'être venue nous parler, revenir pour nos auditeurs sur ce livre important d'Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem. Voilà, il est 10h50 sur France Culture, on change totalement de registre, on passe au journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël, oui, on change de registre, de sujet, de pays, d'époque et on se demande quel est le point commun entre Shakespeare et Marlowe, ou plus précisément entre La Tempête et le Docteur Faust. Tous deux donnent à voir une certaine image du savant au XVIIe siècle et vous allez voir, on y apprend beaucoup. Bonjour Michael Poplard.
Bonjour.
La figure du savant chez Shakespeare et Marlowe, rêve de puissance et ruine de l'âme. C'est ainsi que vous avez intitulé votre livre qu'on trouve aux éditions PUF. Et vous êtes spécialiste de littérature anglaise de la Renaissance, notamment aussi du philosophe Francis Bacon. Et dans ce livre précisément, vous vous intéressez à la manière dont les savants sont perçus et représentés au sein de la société du XVIIe siècle. Alors pour analyser cette représentation des savants, vous avez choisi de vous baser sur deux pièces en particulier. D'un côté, La Tempête de Shakespeare, qui date de 1611, et de l'autre, La tragique histoire du docteur Faust de Christophe Marlowe, qui, elle, date de 1604. Qui a été publiée, non ?
Non, alors on n'a pas une grande certitude sur la date ni d'écriture ni de publication. On sait que c'est la fin du XVIe siècle. Il y a plusieurs théories qui circulent, 1589, 1593, on ne sait pas exactement.
D'accord, mais donc voilà. Toutes les deux datent du tout début du XVIIe siècle en tout cas. Alors pourquoi avoir choisi ces deux pièces-là pour analyser cette représentation, le rôle du savant dans la société au XVIIe siècle ?
Alors ce que j'ai voulu montrer dans cette étude, c'est qu'il y avait convergence entre le moment où l'Angleterre s'affirme dans le domaine scientifique, ou pour prendre une métaphore théâtrale sur la scène scientifique, avec des figures comme John Dee, Thomas Harriot, ou peut-être plus connu des auditeurs, William Harvey, par exemple, et d'autre part, le moment où la figure du savant, l'homme de science, devient un personnage théâtral, d'abord sous la plume de Christopher Marlowe, comme vous l'avez dit, donc à la fin du XVIe siècle, avec ce texte, le docteur Faust, qui aura une postérité importante, hein, puisqu'il sera après repris par de nombreux écrivains. Jusqu'au XXe siècle, puis ensuite sous la plume de Shakespeare, avec ce qui est sa dernière pièce écrite tout seul, La Tempête, donc en 1611, comme vous l'avez dit. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, puisque le thème scientifique est vraiment un thème extrêmement courant à cette époque-là, et on trouve beaucoup d'exemples dans le théâtre élisabétain puis jacobéen. Alors élisabétain donc sous le règne d'Élisabeth Ière, et puis jacobéen sous le règne de Jacques Ier, donc à la toute fin du XVIe siècle et au tout début du XVIIe siècle. Et c'est un thème qui vraiment s'affirme sur la scène théâtrale. Et donc j'ai voulu étudier cette convergence. Et ce qui me paraissait intéressant, c'était que si d'un côté des philosophes comme Bacon défendent une idée extrêmement enthousiaste, très positive de la science, qui doit alors bien sûr découvrir le vrai, découvrir les formes de la nature, mais aussi produire des œuvres utiles. Et donc à la fin de la Nouvelle Atlantide, par exemple, on a une liste des merveilles naturelles, donc parmi lesquelles prolonger la vie, guérir les maladies incurables. Donc c'est une idée extrêmement positive de la science. Eh bien, chez Shakespeare ou chez Marlowe, l'image de la science est beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus ambivalente. Et elle ne fait pas nécessairement le bonheur de ceux qui la pratiquent, ni de ceux qui se trouvent autour du savant.
Alors d'où vient cette différence de représentation, de lecture du rôle du savant, précisément entre d'un côté le philosophe Francis Bacon, que vous venez de citer, et de l'autre Shakespeare et Christopher Marlowe? Est-ce que cela vient de leur occupation personnelle, à savoir d'un côté on a un philosophe, lui-même un savant, qui donc peut-être se regarde et parle de lui-même, et de l'autre, des dramaturges, des écrivains, qui auront donc une perception différente parce qu'étrangère peut-être au rôle, à la fonction du savant.
Oui, sans doute. Je crois que cette différence s'explique en partie par le fait que Francis Bacon écrit en tant que philosophe, et Shakespeare et Marlowe sont des dramaturges. Mais en même temps, la New Atlantis, la Nouvelle Atlantide, est un texte de fiction. Donc, et je crois qu'on ne peut pas trop... on ne doit pas forcer l'opposition entre ce qui relèverait de la philosophie et ce qui relèverait de la littérature, ni même ce qui relèverait de la science et ce qui relèverait de la magie ou de la philosophie ou de la littérature, puisque les frontières sont sans doute plus floues à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Oui, il faut rappeler qu'à l'époque, hein, les deux pièces en question sont elles-mêmes représentatives du nouveau regard porté sur la science. Hein, si on s'intéresse au cadre chronologique lui-même, on voit qu'on est au début de ce qu'on a nommé la révolution scientifique.
Absolument, oui, on est au début de ce qu'on a parfois nommé la révolution scientifique, avec toutes les réserves que ce terme appelle. Mais en effet, pour Bacon, la science va contribuer au bonheur de l'humanité, alors que, par exemple, dans La Tempête, on pourrait dire que plus Prospero devient scientifiquement puissant, moins il est véritablement humain. Alors, il ne s'agit pas de le rejeter du côté de l'animalité ou du monstre, mais en tout cas de dire qu'il est moins ouvert à l'autre, qu'il est plus dur. Il est frappant de remarquer que tous les personnages de la pièce parlent de sa dureté, en tout cas un grand nombre de personnages de la pièce parlent de sa cruauté, et que ce n'est qu'à la toute fin de la pièce que Ariel fait vibrer en lui la fibre humaine en dépeignant le vieux Gonzalo qui souffre et pleure, et dont la barbe est perlée de gouttes de larmes. Et il compare ce personnage à une tige de roseau en hiver où perle une goutte de rosée. Et c'est cette image qui va émouvoir Prospero, réveiller en lui la fibre humaine, et c'est ensuite qu'il va abjurer la science. Et donc il y a comme une coïncidence à nouveau entre le moment où il abjure sa science et son retour à une forme d'humanité plus pleine, peut-être en tout cas une ouverture aux autres qu'il avait perdu à un moment pendant le début de la pièce.
Et alors, dans la première partie de votre livre, vous essayez de cerner la condition sociale et la réalité de l'existence matérielle des savants. Est-ce qu'on peut véritablement brosser ou peindre ou dessiner un tableau d'ensemble de leurs conditions sociales? Ou est-ce que les savants sont une seule et même chose, appartiennent à une même entité? Ou est-ce que à l'époque, n'a-t-on pas encore plus, peut-être que maintenant, une hétérogénéité entre chaque savant?
Oui, c'est très difficile, en effet, de dresser un tableau d'ensemble. Il y a un grand nombre de situations différentes. Certains travaillent pour la reine, sont médecins auprès de la reine. D'autres travaillent plus ou moins à leur compte parce qu'ils ont les moyens de le faire, qu'ils sont aristocrates et qu'ils ont donc des moyens d'assurer de se livrer à leur passion. Donc c'est assez difficile, mais on peut dire en fait qu'on passe d'une figure solitaire du savant à une construction solidaire du savoir, avec la construction de réseaux de sociabilité savante qui préfigure déjà la Royal Society de la fin du XVIIe siècle.
Et vous montrez très bien, Michael Poplar, je dois dire, notamment à travers l'analyse donc de La Tempête de Shakespeare et du Docteur Faust de Christopher Marlowe. Donc votre livre s'appelle La figure du savant chez Shakespeare et Marlowe, rêve de puissance et ruine de l'âme, et on trouve ça aux éditions PUF.
Un dernier mot, Adèle, pour finir.
Et oui, demain nous serons le jeudi 2 décembre, et c'est le jour où le journal Libération demande à des dizaines de philosophes de prendre la plume à l'occasion de la 4e édition du Libération des philosophes. Réunis à l'appel de Laurent Geoffrin et de Max Armanet, pas moins de 74 philosophes rédigeront ensemble l'édition de Libération, donc de demain, de l'événement aux pages culture, en passant par la politique, l'économie et le sport. Cette 4e édition du Libération des philosophes sera coordonnée par Robert Maggiori, et ce sera donc un numéro tout philo avec des philosophes que nos auditeurs connaissent bien: Antoine Grandjean, Fabienne Brugère, Patrick Savidan, Sandra Logier, Maxime Rovert, Michel Herman, Geneviève Fraisse et 67 autres donc. Et je signale également qu'à l'occasion de cette parution donc du Libé des philosophes, le journal s'est associé à la communauté urbaine de Bordeaux pour organiser un forum autour du thème « La philosophie dans la cité ». Alors ça a lieu demain également, et cette fois ce seront une trentaine de philosophes, mais aussi juristes, politiques et journalistes, qui viendront réfléchir au rôle du philosophe dans la cité. Aujourd'hui, on pourra y entendre Cynthia Fleury, Michel Serres, Bernard-Henri Lévy, mais aussi Manuel Valls et François Dubet, qui se réuniront donc pour décortiquer ensemble l'actualité de la cité. Le Libé des philosophes et le forum à Bordeaux autour de la philosophie dans la cité, tout cela a lieu demain, jeudi 2 décembre, et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Nouveaux Chemins.
Oui, et un petit message d'ailleurs amical et admiratif à Max Armanet pour tout le travail de préparation à ces rencontre de Libération. Merci Adèle. Un merci tout particulier à Mydia Portis-Guérin, dont le travail préparatoire à cette émission était aussi décisif qu'éprouvant. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur Hannah Arendt. Il sera question de liberté demain en compagnie de Michael Fossel. Ces émissions, vous les trouvez sur Internet où vous attend l'écoute en ligne des émissions de la semaine, le téléchargement des émissions du mois, ainsi qu'une bibliographie au sein de laquelle j'ai plaisir à signaler l'édition Quarto, donc chez Gallimard, de Eichmann à Jérusalem et des origines du totalitarisme. Une très belle édition qui tient dans une petite valise. Allez, mais c'est vraiment des livres importants et bien mis en page. Je signale également que Les Bienveillants de Jonathan Little existent en poche. Et enfin, comme on en a parlé, L'Imprescriptible et Pardonné, point d'interrogation, de Vladimir Jankélévitch. Ça, c'est en point seuil. 10h59 et 30 secondes sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.